Chapitre 29. J'ai fabriqué ma nouvelle ferme à Tomib, avec des plaques d'aluminium et ma fraiseuse à commande numérique. Cela n'a pas été difficile. Mon souci désormais, c'est le vaisseau de Rocky. Un mois durant, j'ai suivi la progression du spot A en localisant ses émissions de lumière. Le vaisseau est désormais invisible. Je flotte dans la salle de contrôle. Les moteurs sont désactivés et le pétrovascope réglé au maximum de ses capacités. Comme d'habitude, il capte les longueurs d'onde de Petrova émises par Tossetti. Avec une certaine difficulté d'ailleurs. L'étoile, presque aussi lumineuse que notre Soleil, se résume désormais à un point légèrement plus gros que les autres dans le ciel. À part cela, il n'y a rien. Je suis trop loin désormais pour détecter la ligne de Petrova d'Adriane, et le spot A a complètement disparu. Et pourtant, je sais exactement où il est censé être, à la milliseconde près. À cette distance, le pétrovascope devrait le distinguer très clairement. J'ai fait et refait plusieurs fois les calculs, alors que mes observations quotidiennes ont déjà confirmé mes formules. Et je ne vois plus rien. Le spot A s'est volatilisé. Rocky est abandonné, tout seul. Ces Tomib ont pris la poudre d'escampette et trouvé le chemin de ces réservoirs d'astrophages, dont elles se sont régalées. Des millions de kilogrammes d'astrophages partis en quelques jours. Rocky est intelligent. Aussi a-t-il sans doute séparé ces réservoirs en compartiments, mais ceux-ci sont faits de xénonite, n'est-ce pas? Évidemment. 3 jours. Si le vaisseau était tombé en panne, il l'aurait déjà réparé. Rocky est capable de tout réparer, et il travaille vite. 5 bras œuvrant de concert, faisant souvent des choses totalement différentes. Combien de temps lui faudrait-il pour régler le problème d'une infestation massive de son vaisseau? Et il dispose d'une grande réserve d'azote. À vrai dire, son atmosphère d'ammoniac constitue une réserve inépuisable d'azote. Admettons qu'il ait réagi immédiatement. Combien de temps lui faudrait-il pour tout remettre en route après avoir tué les Tomib? Pas si longtemps. Quoi qu'il soit arrivé, si le spot A pouvait être réparé, Rocky l'aurait déjà fait. Une seule chose peut expliquer que ses moteurs soient désactivés alors qu'il est. Il n'a plus de carburant. Rocky n'a pas réussi à stopper les Tomib à temps. Je me prends la tête à 2 mains. Je pourrais rentrer chez moi. Vraiment. Je pourrais rentrer et passer le restant de ma vie en héros. J'aurais droit à mes statues, à des parades et tout le toutim. Et je vivrais dans un nouvel ordre mondial guéri de ces problèmes énergétiques. Partout, de l'énergie bon marché, facile et renouvelable grâce aux astrophages. J'aurais même la possibilité de retrouver Strat pour lui dire tout le bien que je pense d'elle. Rocky mourrait, en revanche. Et son peuple avec lui. Des milliards d'individus. Je suis si prêt pourtant. Il me suffit de survivre 4 ans. En bouffant une bouillie dégoûtante, c'est vrai, mais je suis vivant. Mon esprit à la logique parfois agaçante me présente une autre possibilité. Lancer les 4 scarabées. Les 4. Chacun avec sa mini-ferme à Tomib et sa clé USB pleine de données et de découvertes. De quoi permettre aux scientifiques de la Terre de se débrouiller seuls. Et puis faire demi-tour, retrouver Rocky et le raccompagner sur Eride. Conséquence fâcheuse, je meurs. Il me reste assez de vivre pour rentrer sur Terre, ou pour me rendre sur Eride. Même si les Eridiens refaisaient le plein du dernière chance, cependant, je n'aurais pas assez de nourriture pour rentrer sur Terre. À ce stade, il ne me resterait que 2 mois de vivre environ. Je ne peux rien faire pousser, je ne dispose ni de graines viables, ni de plantes d'aucune sorte. Je ne peux pas manger de nourriture éridienne. Trop de métaux lourds et de toxines mortelles. Le choix est simple. Option 1, rentrer à la maison en héros pour sauver l'humanité. Option 2, me rendre sur Éride, sauver une espèce extraterrestre et mourir de faim peu de temps après. Je m'arrache les cheveux. Je sanglote dans mes mains. C'est cathartique et épuisant. Lorsque je ferme les yeux, je ne vois que la carapace stupide de Rocky et ses petits bras qui s'activent toujours à quelque chose. 6 semaines se sont écoulées depuis que j'ai pris ma décision. Cela n'a pas été facile, mais je m'y suis tenu. J'ai désactivé les moteurs tournants pour mon rituel quotidien. J'allume le pétrovascope pour scruter l'espace. Au début, je ne vois rien. Désolé, Rocky. Soudain, j'aperçois un minuscule point de lumière de Petrova. Je zoome pour examiner la zone en question et je repère un total de 4 points à peine visibles. Tu aurais adoré des océans scarabées, mais ils sont bien trop précieux. Les scarabées, avec leur moteur tout petit, ne sont pas visibles très longtemps. D'autant qu'ils foncent vers la Terre, alors que moi je fonce vers le spot A. Les bobines d'astrophage dans les mini-fermes protégeront les taumibes des radiations, et j'ai procédé à des tests exhaustifs pour m'assurer que les fermes et la vie qu'elles abritent résisteront à l'accélération des scarabées. De leur point de vue, elles arriveront à destination dans 2 ans. 13 ans du point de vue de la Terre. Je redémarre les moteurs tournants et je poursuis ma route. Trouver un vaisseau spatial quelque part juste en dehors du système de Tau Ceti n'est pas une mince affaire. Imaginez qu'on vous mette sur une barque avec pour mission de retrouver un cure-dent flottant sur l'océan. C'est du même ordre, mais plus difficile encore. Je connais sa trajectoire, et je sais qu'il va la suivre. En revanche, j'ignore quand ses moteurs ont lâché. Je ne vérifiais sa position qu'une fois par jour. Là, je suis en plein sur sa trajectoire initiale, et je calque ma vélocité sur la sienne supposée. Mais ce n'est que le début. Il me reste beaucoup de recherches à faire. Je regrette de ne pas avoir suivi sa progression de façon plus rigoureuse. Comme je ne sais pas quand ses moteurs ont cessé de tourner, ma marge d'erreur est d'environ 20 millions de kilomètres. C'est à peu près 1/8 de la distance qui sépare la Terre du Soleil. Une distance que la lumière met 1 minute entière à traverser. Je ne pourrais pas faire mieux avec les informations dont je dispose. Honnêtement, ça aurait pu être bien pire. Si les taumibes s'étaient échappés 1 mois plus tard, la zone à passer au peigne fin aurait été bien plus grande. Tellement plus grande. Et tout cela se passe en bordure du système de Tau Ceti. Dans la toute première partie du voyage, en réalité. La distance qui sépare la Terre de Tau Ceti représente 4000 fois le diamètre de ce système planétaire. Puisque je vous dis que l'espace est grand, je suis donc très chanceux de n'avoir que 20 millions de kilomètres à fouiller. « Hum, » marmonnai-je. « Si loin de Tau Ceti, le spot A est très peu éclairé par l'étoile. Autant dire que je n'aurais quasiment aucune chance de le repérer avec un télescope. J'allais presque oublier. Je vais mourir. « Oh, arrête un peu !» Chaque fois que je pense à ma mort prochaine, je m'oblige à considérer le cas de Rocky. Il doit être désespéré, le pauvre. J'arrive, mon pote. Attends. Il est triste, c'est certain. Mais Rocky n'est pas du genre à se morfondre. Il doit être en train de travailler à une solution. Mais comment? Son espèce tout entière est menacée et il ne sait pas que je viens à son secours. Il ne se suiciderait pas, si? Il ferait tout son possible, même si ses chances de succès étaient minimes. Admettons que je sois Rocky. Mon vaisseau est mort. Peut-être que j'ai réussi à sauver quelques astrophages. Les taumibes n'ont quand même pas pu tout bouffer. Donc, j'ai quelques astrophages. Puis-je construire mon propre scarabée? Une sonde à envoyer sur Eride? Je secoue la tête. Il faudrait pour cela un système de guidage. Un système informatique d'un niveau technologique bien supérieur à celui d'Eride. Voilà pourquoi elles étaient 23 dans un vaisseau énorme. Par ailleurs, 1 mois et demi s'est déjà écoulé. Si Rocky avait dû construire un petit vaisseau, il l'aurait déjà terminé, et j'en aurais vu les moteurs. Rocky travaille vite. Donc, pas de scarabée. Mais il a de l'énergie, un système de support vie, et assez de nourriture pour tenir très très longtemps. Ils sont partis à 23 et étaient censés rentrer chez eux. La radio, peut-être? Peut-être générera-t-il un signal radio? Un truc assez puissant pour être capté par Eride? Les chances de détection seraient limitées, mais elles existeraient. Les Éridiens ont une longue espérance de vie. Attendre 10 ans d'être secouru ne serait pas dramatique pour lui. Disons que ce ne serait pas une question de vie ou de mort. Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais répondu qu'il est impossible d'envoyer un signal radio à 10 années-lumière. Nous parlons de Rocky cependant, et il dispose peut-être d'astrophages en nombre suffisant pour alimenter l'appareil qu'il construirait, quelle que soit sa nature. Il n'aura pas besoin de contenir des informations, simplement d'être remarqué. Non, ce n'est pas possible. Après quelques calculs rapides sur un coin de table, je conclus que même avec une technologie radio équivalente à celle de la Terre, ce qui est très peu probable, la puissance du signal lorsqu'il serait capté par Eride serait inférieure à celle d'un bruit parasite. Rocky le sait, évidemment. Il ne commettra pas cette erreur. Je regrette de ne pas avoir un meilleur radar. Le mien fonctionne bien sur quelques milliers de kilomètres, ce qui est loin d'être suffisant. S'il était là, Rocky trouverait sans doute une solution. C'est paradoxal, mais j'aimerais que Rocky soit là pour me permettre de sauver Rocky. Un meilleur radar. Je ne manque pas d'énergie, je dispose d'un radar. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. On ne peut pas simplement envoyer plus de jus à un émetteur et espérer que tout se passera bien. Serait-il capable de transformer l'énergie des astrophages en ondes radio? Je bondis du fauteuil du pilote. Mais oui! J'ai tout ce dont j'ai besoin pour fabriquer le meilleur radar qui soit. Au diable le système du dernière chance, avec son émetteur anémique et ses capteurs inefficaces. Je dispose de moteurs tournants et d'un pétrovascope. Je peux émettre 900 terawatts d'IR par l'arrière du vaisseau et user du pétrovascope pour voir ce qui me revient. Et le pétrovascope a été soigneusement conçu pour percevoir la plus petite quantité de cette exacte fréquence. Je ne peux pas utiliser le pétrovascope et les moteurs simultanément, mais ce n'est pas grave. Rocky se trouve sans doute à une minute-lumière de moi. Je prépare une grille de recherche. C'est relativement simple. Je me trouve exactement là où Rocky aurait dû se trouver. Il me faut donc chercher dans toutes les directions à la fois. Rien de plus facile. Je mets en route les moteurs. Je prends manuellement le contrôle du vaisseau, ce qui implique évidemment de répondre oui, oui, oui et confirmer dans plusieurs fenêtres de dialogue sur mon écran. Je mets donc les gaz et je tourne à bâbord. La force me plaque en arrière et sur le côté. C'est l'équivalent astro-navigationnel d'une soirée passée à faire des têtes à queue sur le parking d'un supermarché. Je serre autant que possible, j'insiste, et j'achève mon tour complet en 30 secondes. Je suis revenu plus ou moins à mon point de départ, à une dizaine de kilomètres près en tout cas. Je coupe les moteurs. Maintenant j'allume le pétrovascope. Il n'est pas omnidirectionnel, mais il peut couvrir un arc de 90 degrés. Lentement, je scrute l'espace dans la même direction que mes émissions d'hier. Ce n'est pas facile car le timing doit être parfait. Si Rocky se trouve trop près ou trop loin, mon système ne fonctionnera pas. Mais c'est seulement mon premier essai. J'opère un tour complet avec mon pétrovascope. Rien. Je fais un deuxième tour. Peut-être que Rocky se trouve plus loin que prévu. Cela ne donne rien. Je n'ai pas terminé, bien sûr. L'espace est tridimensionnel. Je n'ai examiné qu'une mince tranche de cette zone. J'incline le vaisseau de 5 degrés et je recommence la même manœuvre. Si je n'obtiens aucun résultat, j'inclinerai de nouveau le dernière chance de 5 degrés et je recommencerai tout. Et ainsi de suite, jusqu'à 90 degrés. J'aurai alors cherché dans toutes les directions. Et si cela ne marche pas, je recommencerai mon examen panoramique au pétrovascope, mais plus rapidement. Je me frotte les mains, j'avale une gorgée d'eau, et je me mets au travail. Un éclair! Je vois enfin un éclair! J'en suis à 55 degrés par rapport à mon plan de départ et à mi-chemin de mon balayage. Un éclair! Je sursaute de surprise, ce qui me fait décoller de mon fauteuil. Je flotte dans la salle de contrôle avant de reprendre position à la place du pilote. Jusque-là, mes progrès ont été pour le moins laborieux. Bref, je suis là comme ce n'est pas possible. Enfin, j'étais. Merde, c'était où déjà? Bon, on se détend. Du calme. Du calme. Je pose l'index sur le moniteur à l'endroit où j'ai vu l'éclair. Je vérifie les mouvements du pétrovascope. Je fais quelques calculs sur l'écran et en déduis l'angle. C'est à 214 degrés de lacet sur le plan actuel, incliné à 55 degrés par rapport à l'écliptique de Tossetti. Je t'ai trouvé! Il est temps de regarder cela dans le détail. J'enfile la lanière de mon pauvre chronomètre tout cabossé. La pesanteur n'a pas fait de cadeau au vieux bougre, mais au moins fonctionne-t-il toujours. Je prends les commandes et dirige le vaisseau à l'opposé du signal. Je démarre le chronomètre et j'avance en ligne droite pendant 10 secondes avant de couper les moteurs et de faire demi-tour. Je m'éloigne de la cible à environ 150 mètres par seconde, mais cela n'a pas d'importance. Je ne veux pas annuler la vélocité que je viens d'imprimer. Ce que je veux, c'est le pétrovascope. Le chronomètre égrenant les secondes dans ma main, je fixe le moniteur du regard. Avant longtemps, je revois la lumière. 28 secondes. Le point lumineux reste visible pendant 10 secondes, puis disparaît. Je ne peux pas garantir qu'il s'agit du spot A. En tout cas, l'objet reflète les IR de mes moteurs tournants. Et il se trouve à 14 secondes lumière de moi. 14 secondes à l'aller, plus 14 au retour, cela fait 28 en tout. Cela représente plus ou moins 4 millions de kilomètres. Inutile d'essayer de déterminer la vélocité de l'objet en effectuant une multitude de mesures. Je ne risque pas d'obtenir un résultat très précis à coup d'index sur le moniteur. Je dispose d'une direction générale, cependant. Je peux parcourir ces 4 millions de kilomètres en 9h30. « Oui !» m'écriai-je en serrant le poing. « Je vais vraiment crever, alors !» Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela. Disons que, si je n'avais réussi à localiser Rocky, j'aurais repris la direction de la Terre. Quand j'y pense, je m'étonne de m'être donné tant de mal pour me condamner à mort. Bref, je pointe le nez du vaisseau dans la direction de la lumière et j'enclenche les moteurs. Pas besoin de la relativité, cette fois. De la bonne vieille physique de lycéen suffira. J'accélère jusqu'à la moitié du parcours, puis je décélère. Je passe les 9 heures qui suivent à faire le ménage. Je vais bientôt recevoir un invité. Je l'espère. Rocky va devoir reboucher les trous qu'il a fait dans la xénonite, mais cela ne devrait pas lui poser de problème. À condition que je me dirige bien vers le spot A, et non un vulgaire débris flottant dans l'espace. J'essaye de ne pas y penser, histoire de ne pas perdre tout espoir, tout ça. Je sors mes affaires de la zone occupée précédemment par Rocky. Lorsque j'ai terminé, je m'agite beaucoup. Je suis tenté de m'arrêter pour effectuer un nouveau balayage et confirmer que je suis sur la bonne voie, mais je résiste. Il me faut attendre encore un peu. J'avise ma ferme à Tomib en aluminium dans le laboratoire et la lamelle couverte d'astrophage de mon alarme juste à côté. Tout se passe bien. Peut-être que je pourrais... Le minuteur sonne. Je suis arrivé. Je gravis l'échelle à toute vitesse jusqu'à la salle de contrôle et je désactive les moteurs tournants. Je n'attends même pas de m'installer dans le fauteuil pour afficher l'écran radar et je lance une impulsion à pleine puissance. Allez, s'il te plaît. Rien. Je m'installe dans mon fauteuil et je me sangle. À dire vrai, je m'y attendais un peu. Je suis très près du contact désormais, quoique pas assez près pour mon radar. Je viens de parcourir 4 millions de kilomètres et la portée du radar est 1000 fois inférieure à cette distance. Ma précision n'est donc pas de 99,9%. Quelle surprise! Il est temps d'effectuer un nouveau balayage au pétrovascope. Cette fois cependant, il n'y a plus une minute lumière entre ma cible et moi. Si je suis à, disons, 100 000 kilomètres, la lumière me reviendra dans une seconde seulement. Et je ne peux pas user du pétrovascope pendant que les moteurs tournent. Que faire dans ce cas? Il me faut émettre de la lumière sur la bonne fréquence sans éteindre le pétrovascope. Je passe en revue les options proposées par le menu sans rien trouver d'intéressant. Il ne semble y avoir aucun moyen d'utiliser le pétrovascope et les moteurs tournants en même temps. Il doit y avoir un verrouillage physique quelque part. Un câble qui court sans doute des moteurs jusqu'au pétrovascope. Je pourrais passer le restant de ma vie à le chercher en vain. Cependant, les moteurs principaux ne sont pas mes seuls moteurs tournants. Mes correcteurs d'orientation, positionnés sur les flancs du vaisseau, sont également des moteurs tournants. Grâce à eux, j'ai pu changer de direction, corriger le lacet, le roulis, le tangage. Je me demande s'ils gênent le pétrovascope. Tout en laissant celui-ci fonctionner, je fais rouler l'appareil rapidement vers la gauche. Je termine la manœuvre et constate que le pétrovascope reste actif. J'adore détourner les objets de leur usage, même si quelqu'un dans l'équipe avait certainement pensé à ce cas de figure. Sans doute ont-ils décidé que la production modérée de ces correcteurs d'orientation ne pouvait pas endommager le pétrovascope. Quand on y pense, c'est assez logique. Tous les moteurs du vaisseau pointent vers l'extérieur et donc loin du pétrovascope. Celui-ci se désactive lorsque les moteurs tournants principaux sont actifs à cause de la lumière réfléchie par la poussière cosmique. Les réflexions produites par l'usage des correcteurs d'orientation, beaucoup moins puissants, ont été jugées acceptables. Il n'en demeure pas moins que les moteurs latéraux émettent assez de lumière pour vaporiser de l'acier. Peut-être en produiront-ils suffisamment pour éclairer le spot A. Je pointe le pétrovascope dans la même direction que le correcteur d'orientation bâbord. Celui-ci apparaît d'ailleurs en bas de l'image en mode lumière visible. Je l'active. Il y a clairement un rougeoiement dans le spectre de Petrova, un genre de halo autour du moteur, un peu comme lorsqu'on allume une lampe torche dans le brouillard. Au bout de quelques secondes, toutefois, le halo perd en intensité, même s'il est toujours présent. Sans doute de la poussière et des gaz émanant du vaisseau. De minuscules particules se détachant du dernière chance. Une fois celle-ci vaporisée par le moteur, la situation s'est calmée. Le vaisseau pivote sur lui-même, tandis que le moteur tourne et que je ne lâche pas le pétrovascope des yeux. Contrairement à la fois précédente, cependant, je dispose d'une lampe torche. La rotation s'accélère, ce qui est une mauvaise chose. J'allume le correcteur tribord. L'ordinateur de bord proteste avec véhémence. Il ne comprend pas pourquoi le navire devrait tourner dans deux directions opposées à la fois. Je choisis de ne pas écouter ses mises en garde. Je fais une révolution complète, mais je ne vois rien. Bon, rien de nouveau. J'incline le dernier chance de 5 degrés et je recommence. Au sixième tour, tandis que mon inclinaison est de 25 degrés par rapport à l'écliptique d'Adriane, je repère le contact. Il est trop loin pour que j'en distingue les détails, mais il s'agit bien d'un objet réfléchissant la lumière de mon moteur latéral. J'allume et j'éteins celui-ci plusieurs fois pour évaluer le temps de réponse presque instantané. Je dirais moins d'un quart de seconde. Je dois être à moins de 75 000 km. Je pointe le nez de l'appareil vers le contact et je démarre les moteurs. Cette fois, je ne vais pas foncer tête baissée. Je m'arrêterai tous les 20 000 km environ pour reprendre des mesures. Je souris. Mon système fonctionne. Reste à espérer que je n'ai pas passé la journée à pourchasser un astéroïde. En volant avec circonspection et en m'arrêtant régulièrement pour évaluer la distance qui me sépare de l'objet, je m'en approche suffisamment pour qu'il se retrouve à portée de détection de mon radar. Il est bien là, sur le moniteur. Spot A. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que son nom lui venait de là. Je suis à 4000 km, soit la limite de la portée du radar. J'active le télescope, mais je ne vois rien. Même avec le grossissement maximal. Il faut dire que celui-ci a été conçu pour détecter des corps célestes mesurant des centaines ou des milliers de kilomètres de largeur, non pas un vaisseau d'à peine quelques centaines de mètres. Je m'approche doucement. La vélocité de l'objet par rapport à Tau Ceti pourrait correspondre à celle du vaisseau de Rocky, à celle qu'il aurait atteinte au moment où ses moteurs se sont éteints. Je pourrais effectuer diverses mesures et faire des calculs pour déterminer sa trajectoire, mais j'ai un autre plan. Pendant quelques minutes, J'allume et j'éteins plusieurs fois les moteurs. Je ralentis, puis j'accélère, jusqu'à calquer ma vélocité sur celle de l'objet. Il se trouve toujours à 4000 km, mais sa vélocité par rapport à moi est désormais presque nulle. Pourquoi cette manœuvre? Parce que le dernier chance est très fort pour déterminer sa propre trajectoire. J'ouvre l'écran de navigation et je demande au vaisseau de calculer son orbite actuelle. Après quelques observations astronomiques et calculs, l'ordinateur me dit exactement ce que j'ai envie d'entendre. Le dernier chance est sur une trajectoire hyperbolique. Cela signifie que je ne suis pas du tout en orbite, que je suis sur un vecteur de fuite, que j'échappe à l'influence gravitationnelle de Tau Ceti. L'objet que je traque est donc aussi sur un vecteur de fuite. Vous savez ce que ne font pas les objets d'un système solaire? Échapper à l'attraction de l'étoile. Tout ce qui est assez rapide pour cela y est parvenu il y a des milliards d'années. L'objet, quelle que soit sa nature, n'est pas un simple astéroïde. Oui, oui, oui et oui. J'active les moteurs et me dirige vers la cible. Courage, mon pote, j'arrive. Lorsque je ne suis plus qu'à 500 km, j'obtiens une image de l'objet, des pixels énormes dessinant un triangle. Il est 4 fois plus long que large. Cela ne fait pas beaucoup d'informations, mais c'est bien suffisant. Il s'agit bien du spot A, dont je connais parfaitement le profil. Je garde sous la main une des pochettes de vodka d'Ilioukina pour les occasions comme celle-ci. J'en débouche la paille et avale une gorgée. Je tousse. Je siffle. Ilioukina n'aimait décidément pas les boissons de fillette. Le vaisseau de Rocky est à tribord, à une 50aine de mètres seulement. Je me suis approché avec beaucoup de circonspection. J'aimerais, si possible, ne pas avoir traversé la moitié du système solaire pour vaporiser mon ami avec mes moteurs. Ma vélocité est identique à la sienne, à quelques centimètres par seconde près. Près de 3 mois se sont écoulés depuis que nous nous sommes quittés. De l'extérieur, le spot A n'a pas changé. Quelque chose ne tourne pas rond, cependant. J'ai tout essayé pour entrer en communication avec lui. La radio, des éclairs de lumière avec mes moteurs tournants. Rien n'y fait, je n'obtiens aucune réponse. Je commence à m'inquiéter. Et si Rocky était mort? Il était tout seul là-dedans. Et s'il était arrivé une catastrophe pendant un cycle de sommeil? Les Iridiens ne se réveillent que lorsque leur corps est prêt. Et si le système de support vie était tombé en panne pendant qu'il dormait et qu'il ne se soit jamais réveillé? Et si les radiations avaient eu raison de lui? Il faut dire que les astrophages qui le protégeaient ont cédé la place à des taumibes et du méthane. Les Iridiens résistent très mal aux radiations. Cela s'est peut-être produit si vite qu'il n'a pas eu le temps de réagir. Je secoue la tête. Non, on parle de Rocky quand même. Rocky est malin. Il a dû élaborer un plan B, un support vie secondaire dans lequel il dort. Il a dû penser aux radiations aussi. Elles ont tué tous ses camarades après tout. Pourquoi ne répond-il pas? Il ne voit rien. Il n'a pas de verrière. Pour découvrir ma présence, il lui faudrait regarder activement dehors avec les capteurs de son vaisseau. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Il se croit perdu, seul, dans l'espace. Le temps est venu d'effectuer une nouvelle AEV. Je grimpe dans l'Orlane pour ce qui me semble la millionième fois et je dépressurise le sas dans lequel j'ai fixé un long filin de sécurité. Je jette un coup d'œil dehors, dans le néant infini. Je ne vois pas le spot A. Tau Ceti est trop éloigné pour éclairer quoi que ce soit. Je ne sais où se trouve le vaisseau que parce qu'il masque le champ d'étoiles, que parce qu'il est plus noir que l'espace qui m'entoure. Il n'y a pas de bonne façon de procéder. Je vais devoir y aller au jugé. Prenant appui sur la coque du dernier chance, je me propulse aussi fort que possible dans la direction générale du spot A. C'est un gros vaisseau cependant, et je ne suis pas regardant sur la partie à toucher. Et si je le manque, eh bien tant pis, mon filin me ramènera en arrière. Oui, on peut parler de saut à l'élastique interstellaire. Je flotte dans l'espace. Le noir enfle devant moi. Les étoiles disparaissent à un rythme grandissant, et bientôt je ne vois plus rien. Je n'ai même plus l'impression d'être en mouvement. Logiquement, je devrais avoir la même vélocité que lorsque j'ai sauté de mon vaisseau, mais rien autour de moi ne me le démontre. Soudain, je distingue une tache brune. Je suis assez près du spot A pour que les projecteurs de mon casque l'éclairent en partie. La tache de lumière grossit. Je vois clairement la coque désormais. C'est le moment fatidique. Je dispose de quelques secondes pour trouver quelque chose à attraper. Je sais que la coque est zébrée de rails sur lesquels circule son robot. J'espère que je pourrai en saisir un. Un rail apparaît droit devant. Je tends les bras. Bam ! Je heurte la coque du spot A trop fort pour une combinaison d'AEV. Je n'aurais pas dû me propulser avec tant de force. Mes mains glissent dans tous les sens, essayant de saisir n'importe quoi. Mon plan échoue lamentablement car je n'arrive pas à gripper le rail. Je rebondis et pars à la dérive. Le filin s'en mêle dans mon dos. Je vais devoir retenter ma chance, mais le retour vers la dernière chance sera laborieux. C'est alors que je repère une protubérance dentelée à quelques mètres de moi. Une antenne peut-être. Elle est trop loin pour que je l'attrape. Peut-être qu'avec le filin... Je m'éloigne de la coque lentement mais régulièrement, et je n'ai pas de moteur dorsal. C'est maintenant ou jamais. Je fais rapidement un nœud coulant à mon filin que je jette vers l'antenne. Croyez-moi si vous voulez, j'y arrive du premier coup. Je viens d'attraper un vaisseau extraterrestre au lasso. Je serre le nœud aussi fort que possible. Pendant un instant, je crains de casser l'antenne, puis je reconnais sa couleur brune et sa texture. L'antenne, si c'en est une, est en xénonite. Elle ne risque rien. Je tire sur le filin pour m'approcher de la coque. Cette fois, avec l'antenne et le filin pour m'aider, je parviens à agripper un des rails destinés au robot. Ouf ! Je reprends mon souffle. Le moment est venu de tester Louis de Rocky. Je sors une clé de mon ceinturon, la plus grosse, et je donne un grand coup dans la coque. Je recommence encore et encore. Clang, clang, clang. Le son me parvient à travers la combinaison d'AEV. S'il est toujours en vie, il entendra forcément. Je pose une extrémité de la clé sur la coque, puis je m'accroupis pour poser mon casque sur l'autre extrémité. J'étire mon cou à l'intérieur de la combinaison pour appuyer mon menton sur la visière.
« Rocky ! »
criai-je aussi fort que je le peux.
« Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Je suis là, mon ami, répondez-moi. »
Je monte le volume de la radio, mais je n'entends que de la friture.
« Rocky ! »
Un craquement attire mon attention.
« Rocky ? » ?»«
Grace, question ?»«
Oui ! »
Je n'ai jamais été aussi heureux d'entendre quelques notes de musique.
« Oui, mon pote, c'est bien moi !»«
Vous êtes là, question ?»
Sa voix est tellement aiguë que j'ai du mal à le comprendre. Et pourtant, j'ai un bon niveau en Iridien maintenant.
« Oui, je suis ici !»«
Vous êtes... »
« Quintil. »
« Vous êtes... »
« Quintil encore. »
« Vous êtes ici ?»«
Oui, il faut installer le tunnel entre nos sas !»
Attention, Tomib 82,5 très...
je sais, elle traverse la xénonite. C'est pour ça que je suis revenu. Je savais que vous seriez dans le pétrin.
Vous sauvez-moi?
Oui, j'ai compris à temps pour les Tomib. Il me reste du carburant. Installez le tunnel, je vous raccompagne sur Erid.
Vous sauvez-moi et Erid?
Installez donc ce satané tunnel.
Vous retournez dans vaisseau, sinon vous voir tunnel de l'extérieur.
Ah, oui, c'est vrai.
J'attends avec impatience derrière la porte du sas, en essayant de voir ce qui se passe par le hublot. J'ai déjà assisté à cette scène. Rocky fixant un tunnel entre les deux sas avec l'aide de son robot. Cette fois, ça a été un peu plus compliqué cependant. Le spot A étant incapable de manœuvrer, j'ai dû stabiliser le dernier chance exactement dans la bonne position. Mais j'y suis parvenu. Un dernier clang puis un sifflement. Je connais ce bruit. Flottant dans mon sas, je regarde à travers le hublot. Le tunnel est bien en place. Il l'a gardé pendant tout ce temps. Et pourquoi pas? Après tout, l'artefact lui a permis d'établir un contact avec une espèce intelligente venue d'un autre système. Je l'aurais gardé aussi. J'ouvre la soupape d'urgence pour remplir d'air ma moitié du tunnel. Lorsque les pressions sont égalisées, j'ouvre la porte en grand et je me propulse à l'extérieur. Rocky m'attend de l'autre côté. Ses vêtements sont dans un sale état, couverts de ces résidus de tomib tellement familiers. Il y a des brûlures d'un côté de sa combinaison et deux de ses bras présentent des blessures. Il a vécu des moments difficiles, semble-t-il, mais son langage corporel traduit une joie intense. Il passe frénétiquement d'une poignée à l'autre.
« Moi, très, 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 très heureux !»
lance-t-il d'une voix haut perchée. « Vous êtes blessé ?» manquai-je en désignant ses bras.
« Blessure guérir. Nombreuses tentatives pour stopper infestation. Tout échoué. »
« Moi, j'ai réussi. Mon vaisseau n'est pas constitué de xénonite. »«
Pourquoi catastrophe ? Question. »
« Les tomibes ont appris à résister à l'azote, » expliquai-je dans un sourire, « mais aussi à se cacher à l'intérieur de la xénonite pour échapper à l'azote. Les tomibes 82,5 sont capables de traverser la xénonite. »«
Stupéfaction. Que faire ? Question. »
« Il me reste 2 millions de kilogrammes d'astrophages. Allez chercher vos affaires. On va sur Éride. »
Heureux. Heureux, heureux, heureux. »
Il s'interrompt.
« Lavage à l'azote nécessaire. Précaution pour ne pas introduire tomib 82,5 dans dernière chance. »
« Oui. J'ai une totale confiance dans vos aptitudes. Fabriquez un stérilisateur. » Il s'agite, s'accroche à une poignée puis à une autre. Je vois bien que les brûlures de ses bras lui font mal.
« Éther, question. »
« J'ai envoyé les scarabées avec les mini-fermes. Les tomibes 82,5 sont incapables de traverser l'acier éridien. »
« Bien, bien. Mon peuple s'occuper de vous. Produire astrophage pour rentrer chez vous. »
« Ouais. À ce sujet, je ne peux pas rentrer chez moi. Les scarabées sauveront la Terre, moi je ne la reverrai jamais. »
Pourquoi ? Question.
M'interroge-t-il en cessant de s'agiter. Je n'ai pas assez de vivre. Après Éride, je mourrai.
Vous pas mourir.
Sa voix descend d'un octave.
Moi, jamais laissez-vous mourir. Nous renvoyez-vous chez vous. Éridien très reconnaissant. Vous sauvez tout le monde. Nous tout faire pour vous sauver.
Vous ne pouvez rien faire pour moi. Je n'aurai plus de nourriture. Il m'en reste assez pour rejoindre Éride et survivre quelques mois de plus. Même si votre gouvernement me fournissait les astrophages nécessaires, je ne pourrais pas rentrer chez moi.
Vous mangez nourriture éridienne. Nous évoluer depuis source commune. Utiliser même protéines, même éléments chimiques, même sucre. Possible, très possible.
Non, je ne peux pas manger votre nourriture, vous avez oublié?
Vous dire elle mauvaise pour vous? Nous découvrir.
Elle n'est pas seulement mauvaise pour moi. L'interrompais-je en levant les deux mains. Elle me tuerait. Il y a des métaux lourds dans tous les recoins de votre écologie. La plupart sont toxiques pour moi. Je mourrai immédiatement. Il frissonne.
Non, vous pas mourir, vous amis.
Je flotte plus près du mur de séparation et je réponds à voix basse. J'ai pris ma décision. C'était la seule façon de sauver nos deux mondes.
« Alors vous rentrez chez vous ?»
insiste-t-il en reculant.
« Vous partir tout de suite. Moi attendre ici. Éride peut-être envoyer autre vaisseau. »
« C'est ridicule. Vous ne pouvez pas faire un pari si risqué. » Il garde le silence pendant un long moment, puis finit par répondre.
« Non. »
« Bon. Allez chercher la boule qui vous sert de combinaison spatiale et rejoignez-moi. » Vous m'expliquerez comment reboucher les trous dans les parois de xénonite, puis vous déménagerez.
Idée, vous incapable manger nourriture éridienne, réserve nourriture humaine épuisée, mais nourriture Adriane, question.
Les astrophages ? Gloussai-je. Je ne peux pas manger des astrophages.
Ils ont une température constante de 96 degrés Celsius. Je serais brûlé vif. Par ailleurs, je ne suis pas sûr que mes enzymes digestives fonctionneraient sur leur membrane cellulaire bizarre.
Pas astrophage, Tomib, manger Tomib.
Je ne peux pas. Pourrais-je manger des Tomib? La Tomib est vivante, elle a de l'ADN. Elle a des mitochondries. La mitochondrie, le poumon de la cellule. Elle stocke de l'énergie sous forme de glucose. Elle utilise le cycle de Krebs. Rien à voir avec l'astrophage et ses 96 degrés. C'est juste une amibe originaire d'une autre planète. Elle n'est pas bourrée de métaux lourds comme la vie iridienne. Il n'y a d'ailleurs pas de métaux lourds dans l'atmosphère d'Adriane. Je ne sais pas. Peut-être.
22 millions kilogrammes Tomib dans réservoir,
explique Rocky en désignant son vaisseau.
Combien pour vous, question?
J'écarquille les yeux. Je ressens un espoir véritable pour la première fois depuis bien longtemps.
Affaire réglée. Checker pince.
Lance-t-il en posant une pince sur la paroi transparente. J'éclate de rire et j'appuie mon poing contre la xénonite. On dit check, tout simplement.
Compris.